Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croie en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 17 septembre 2023. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique consacré à une lettre adressée au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies où l'Iran rejette les allégations non fondées des États-Unis. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, suspension de l'accréditation de plusieurs inspecteurs de l'AIOA, l'Iran affirme qu'il poursuivra sa coopération positive avec l'agence. Le bilan des inondations catastrophiques dans la ville de Derna, en Libye, dans l'Est, s'est alourdi à 11 300 personnes. L'Iran envoie 40 tonnes de frais humanitaires. Et puis contre Macron, le petit Caïd, le Mali, le Burkina et le Niger forment une alliance militaire vraiment souveraine. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'Iran affirme qu'il poursuivra sa coopération positive avec l'Agence internationale de l'énergie atomique malgré la décision de retirer l'accréditation de certains inspecteurs de l'agence active autrefois en Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a publié cette déclaration après que le chef de l'AIOA, Raphaël Grossi, ait critiqué Téhéran pour avoir interdit l'activité de plusieurs inspecteurs en Iran. Nasser Kanani a déclaré que la décision de l'Iran était basée sur son accord de garantie avec l'agence qui permet au pays d'opposer leur vote aux inspecteurs. Expliquant les raisons de cette décision, Kanani a déclaré que l'Iran avait déjà mis en garde contre les conséquences des tentatives de politisation de l'AIOA. Il faisait référence à une déclaration anti-iranienne faite cette semaine par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne au Conseil des gouverneurs de l'AIOA accusant Téhéran de ne pas respecter ses engagements. Nasser Kanani a déclaré que ces pays occidentaux, signataires de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, exploitaient le Conseil des gouverneurs de l'AIOA pour faire avancer de concert leurs objectifs politiques anti-iraniens intéressés, malgré le fait que l'Iran s'était engagé dans une coopération constructive et positive avec l'agence viennoise. Malheureusement, la Troïka européenne et Washington ont abusé de l'espace du Conseil à des fins purement politiques, accusé dans un communiqué le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, insistant sur la nécessité de la neutralité de l'agence. L'Irak affirme avoir éliminé les groupes terroristes anti-iraniens des zones de la province d'Erbil, près de la frontière avec l'Iran. Dans un communiqué, le commandant des gardes-frontières irakiens a déclaré que ses forces avaient repris les zones frontalières qui étaient sous le contrôle de groupes terroristes. Selon le communiqué, l'Irak est déterminé à maintenir la sécurité dans les régions frontalières de ses voisins. Les évolutions interviennent quelques jours seulement après la visite du ministre irakien des Affaires étrangères en Iran. Fouad Hussein a assuré mercredi à la République islamique que l'Irak ne laisserait aucun groupe terroriste utiliser son sol comme rampe de lancement pour attaquer les pays voisins, dont l'Iran. Il a également exprimé l'engagement de Bagdad en faveur des pactes de sécurité avec Téhéran. 4 terroristes ont été arrêtés. Ils avaient sur lui des fusils d'assaut, des armes de poing, des uniformes militaires iraniens et des couteaux. Selon un communiqué du Corps des gardiens de la révolution islamique CGRI, plusieurs autres cellules terroristes ont également été neutralisées dans d'autres villes occidentales de l'Iran. Des groupes terroristes basés dans la région du Kurdistan irakien ont mené plusieurs attaques en Iran parallèlement aux émeutes de 2022 dans le pays. Récemment, des responsables iraniens ont lancé plusieurs avertissements concernant un nouveau complot des ennemis visant à provoquer des troubles et mener des projets d'assassinat à l'occasion de l'anniversaire des émeutes éclatées après la mort de Mahsa Amini, une jeune iranienne l'année dernière, largement exploitée par les pays iranophobes hostiles à l'Iran. Hier samedi, les forces de sécurité iraniennes ont également déjoué une tentative d'assassinat contre le père de Mahsa Amini. Le bilan des inondations catastrophiques dans la ville de Derna, dans l'est de la Libye, s'est alourdi à 11 300 personnes. Ce chiffre devrait augmenter, l'ONU affirmant que 10 000 personnes supplémentaires sont toujours portées disparues dans la ville. En dehors de Derna, les inondations ont coûté la vie à 170 personnes supplémentaires. Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent près d'une semaine après que la tempête Daniel a frappé le nord-est de la Libye. L'ONU affirme que la situation humanitaire reste particulièrement sombre à Derna, où deux barrages se sont effondrés. De graves problèmes d'eau potable frappent également la ville. Dans les zones environnantes, l'ONU a également mis en garde contre les dangers liés aux mines terrestres sortant des eaux de crue, menaçant les civils. La Libye est en proie à un conflit armé intermittent depuis des années. 40 tonnes de frais humanitaires, comprenant des tentes de secours, des couvertures, des tapis, des articles d'hygiène et des colis alimentaires ont été envoyés pour aider les sinistrés des inondations en Libye depuis Téhéran. Les forces israéliennes ont attaqué des fidèles musulmans dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Rhodes occupée. Les soldats israéliens ont agressé et battu trois fidèles près de l'une des entrées principales du complexe. Les forces du régime ont intensifié leur présence autour de la mosquée Al-Aqsa et empêchent l'entrée des citoyens palestiniens. Pendant ce temps, de nombreux colons sont entrés dans l'enceinte. Ce dernier incident s'ajoute aux tensions persistantes autour de la mosquée Al-Aqsa. Le mouvement de résistance palestinien Hamas s'est engagé à défendre le lieu saint contre les incursions israéliennes. Enfin, les chefs militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger signent un pacte d'alliance de défense mutuelle alors que les trois pays du Sahel cherchent à s'entraider contre d'éventuelles menaces d'agression extérieure. L'accord oblige également les trois pays à œuvrer pour prévenir ou régler les rébellions armées. Cela survient alors que le bloc régional ouest-africain de la CEDEAO a menacé d'intervenir militairement au Niger suite au renversement du président Mohamed Bazoum. Le Mali et le Burkina Faso ont répondu en affirmant qu'une telle opération serait considérée comme une déclaration de guerre à leur encontre. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. ONU, l'Iran rejette les allégations non fondées des États-Unis. Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saïd Iravani, a déclaré que la République islamique d'Iran avait une position claire et ferme sur le conflit en Ukraine et a ajouté que la tentative des États-Unis de créer un faux lien entre l'utilisation présumée de drones iraniens par l'armée russe dans la guerre contre l'Ukraine et la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies portant sur le programme nucléaire civil de la République islamique d'Iran est totalement infondée. Selon l'agence de presse officielle iranienne IRNA, l'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU, Amir Saïd Iravani, dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a ajouté « En réponse à une lettre datée du 11 septembre 2023 du représentant permanent des États-Unis auprès de l'ONU, adressée au président du Conseil de sécurité, dans laquelle les États-Unis ont repris leurs accusations répétitives et sans fondement pour formuler des allégations sans fondement contre la République islamique d'Iran. » Concernant les conflits en cours en Ukraine, je souligne au nom du gouvernement iranien que ces allégations sont dépourvues de tout fondement. Le haut diplomate de la République islamique d'Iran a poursuivi « La tentative des États-Unis de créer un faux lien entre l'utilisation présumée de véhicules aériens sans pilote par la Russie dans le conflit en Ukraine et la résolution 2231 de 2015 du Conseil de sécurité de l'ONU portant sur le programme nucléaire civil de la République islamique d'Iran a pour but d'accuser l'Iran d'avoir violé cette résolution du Conseil de sécurité. Amir Saïd Eravani a ajouté que les allégations du représentant permanent américain auprès des Nations Unies étaient totalement sans fondement et que la République islamique d'Iran avait déjà rejeté à plusieurs reprises ces allégations infondées et absurdes de Washington dans des lettres adressées au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU, notamment dans une lettre datée du 17 août 2023. Amir Saïd Eravani a précisé « Nous rejetons encore une fois toutes ces fausses accusations rejetées et sans fondement. Les soi-disant preuves présentées par l'Agence de renseignement de défense des États-Unis sont entièrement fabriquées et n'ont aucune valeur juridique », a-t-il dit. Le représentant permanent iranien auprès de l'ONU a ajouté « Les États-Unis cherchent non seulement à induire délibérément en erreur la communauté internationale, mais encore, ils tentent également à manipuler la mission du secrétaire général des Nations Unies dans le seul but d'assurer leurs propres intérêts politiques, malgré la violation continue et significative de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU par les États-Unis eux-mêmes. » L'ambassadeur d'Iran auprès de l'ONU a renchéri « Nous soulignons une fois de plus que la demande répétée et injustifiée des États-Unis au secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies d'enquêter sur la soi-disant violation de la résolution 2231 par l'Iran n'a aucune base légale. » D'autant plus que ni la résolution 2231 ni la clause relative aux prérogatives du président du Conseil de sécurité n'autorisent une telle action illégale. Nous réitérons donc notre demande au secrétaire général des Nations Unies de mettre en œuvre sa mission. Amir Saïd Eravani a ajouté, selon l'article 100 de la Charte des Nations Unies, le secrétariat général des Nations Unies doit résister aux pressions exercées par les États-Unis et certains États membres de l'ONU qui agissent de mauvaise foi en raison de leurs intérêts illégitimes et politiquement motivés. Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a poursuivi, je souhaite également profiter de cette opportunité pour rejeter les accusations sans fondement formulées par certains États membres du Conseil de sécurité lors des séances du 26 juillet et du 12 septembre du Conseil de sécurité consacrées au maintien de la paix et de la sécurité en Ukraine. Je rejette catégoriquement toutes les menaces proférées contre la République islamique d'Iran. Je condamne aussi la référence faite à la République islamique d'Iran dans la soi-disant déclaration conjointe des États-Unis et de certains pays membres du Conseil de sécurité, le 30 août 2023, concernant un texte portant sur la République populaire démocratique de Corée. Amir Saïd Eravani a continué en déclarant je souligne une fois de plus que la République islamique d'Iran a toujours respecté ses obligations en vertu du droit international et de la Charte des Nations Unies et que Téhéran a toujours adopté une position claire et cohérente concernant le conflit en cours en Ukraine.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission. Nous allons évoquer le fait que les trois pays, à savoir la Grande-Bretagne, l'Allemagne, mais aussi la France, qui ont prolongé leurs sanctions contre l'Iran sous divers prétextes, alors que ces trois pays sont dans le cadre de l'accord nucléaire, le PGAC, avec l'Iran, bien que les États-Unis se sont retirés de façon unilatérale il y a quelques années de cet accord. De son côté, l'Iran a fermement condamné cette décision, bien sûr. Et nous allons évoquer cette décision de ces pays européens, les politiques entreprises par les pays européens, par l'Union européenne en général vis-à-vis de l'Iran, mais aussi les dossiers régionaux avec nos deux invités. Mais avant de vous les présenter et de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues et on revient tout de suite après.
Les signataires européens de l'accord de 2015 avec l'Iran, connu sous le nom de Plan Global d'Action Conjoint ou PGAC, ont annoncé qu'ils maintiendraient les sanctions sur le programme de missiles balistiques du pays. Ces sanctions devaient expirer le mois prochain en vertu de l'accord. Le ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé cette décision comme étant illégale et provocatrice. Le communiqué du ministère indique que la décision du E3 manque de logique juridique et aura un impact négatif sur les efforts visant à réduire les tensions et à ouvrir la voie à une plus grande coopération entre les parties au PGAC. La déclaration défend également les mesures prises par l'Iran pour réduire son respect de l'accord, un an après la sortie unilatérale des États-Unis. Plus tôt dans la journée de jeudi, Joseph Borrell, responsable de la politique étrangère de l'Union européenne et coordinateur du PGAC, a déclaré que la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne l'avaient informé qu'elles maintiendraient les sanctions anti-iraniennes, affirmant que l'Iran ne respectait pas l'accord depuis 2019 et qu'elles avaient décidé de priver le pays de ses avantages.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Je vous présente nos deux invités. Il s'agit de Xavier Dupré, économiste et analyste politique, qui est avec nous depuis Bruxelles. Également Philippe Hugon, analyste politique et reporter de guerre, qui est avec nous depuis la France. Je vous dis bonjour, messieurs, et merci de nous avoir accordé votre temps. Xavier Dupré, si vous voulez bien, on commence avec vous dans un premier temps. En ce qui concerne ces sanctions qui se poursuivent et ces pressions qui s'intensifient contre l'Iran, aussi bien que ce soit par les États-Unis, mais aussi les pays européens, comment interprétez-vous ces nouvelles décisions des pays européens alors que, par exemple, la France ou même l'Allemagne ou même la Grande-Bretagne en fait prétendent avoir des politiques assez indépendantes de celles des États-Unis, mais ce genre de décision prouve tout le contraire. Qu'en pensez-vous, Monsieur Dupré?
Alors, sur la question de la non-indépendance, d'abord, je voulais vous saluer tous vos auditeurs.
Merci.
Mais en fait, concernant cette question de la fausse indépendance, de la pseudo-indépendance des Européens, je pense qu'elle est notable depuis fort longtemps déjà. En tout état de cause, alors que les gouvernements, les chancelleries européennes étaient particulièrement critiques à l'égard de Donald Trump, personne en Europe, lorsque l'administration Trump est sortie du PGAC en 2018, personne en Europe n'a osé s'opposer à un plan de sanctions. Alors que toutes ces chancelleries, toutes ces capitales déploraient la décision de sortie unilatérale de la Maison-Blanche des États-Unis. Donc cela renvoie à une dépendance structurelle sur le plan militaire, sur le plan du matériel militaire des Européens face aux États-Unis. Nous sommes pieds et poings liés pour des questions de défense aux États-Unis. Alors je pense qu'il faut aussi décoder, donc ça c'est une donnée qui est là, qui est présente, qui est structurelle, qui est complètement évidente. Je crois aussi qu'il faut se rendre compte qu'en termes aujourd'hui de perception de l'Iran, la thèse qui circule dans certains milieux américains qui consiste à dire qu'aujourd'hui il existe quatre puissances révisionnistes de la configuration post-guerre froide qui a vu émerger l'hyperpuissance américaine, en fait il existerait d'après ces sources quatre pays qui seraient révisionnistes de cet ordre. C'est d'une part, c'est d'abord la Chine, la Russie, et puis ensuite on y ajoute l'Iran et la Corée du Nord. Donc évidemment, dès que ce narratif est en train de gagner pas mal d'esprit, puisqu'aujourd'hui nous vivons en Europe dans une grande peur par rapport à la Russie, et dès lors qu'il y a un soupçon mais parfois même, enfin, dans le cas présent, très peu étayé, ça c'est évident, pas du tout étayé, de livraison d'armes, tellement de drones ou de vecteurs à la Russie, eh bien dans ces conditions, les Européens, évidemment, sentent davantage qu'ils sont, enfin, voient la coopération russo-iranienne comme une menace directe pour leur sécurité, et évidemment, ils ont tendance à surjouer dans la compliance aux orientations et aux sanctions de Washington pour des raisons de sécurité. Donc, nous sommes dans une configuration où tout, et spécialement d'ailleurs le conflit en Ukraine, pousse les Européens à, quelque part, se situer davantage encore le petit doigt dans une attitude, le petit doigt sur la couture du pantalon et de soumission très forte aux désidérata de Washington. Ça, c'est une évidence. Là, maintenant, nous sommes dans cette configuration-là et je crois qu'ils n'en sortiront plus. En tout cas, je crois que l'idée même d'une réactivation du PGAC, alors que les États-Unis vont s'engager dans une bataille électorale qui est indécise et qui sera dans laquelle les deux partis, démocrates et républicains, se rendront coup pour coup, là, c'est tout à fait illusoire. Donc, dans ces conditions, je pense que quelque part, si vous voulez, les grandes capitales européennes, le 3, donc le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, quelque part ont fait leur deuil d'un retour crédible des États-Unis autour de la table avant 2025. Dans ces conditions, ils ne vont pas hésiter à jouer la carte du suralignement par rapport aux sanctions de Washington.
Merci infiniment pour vos explications, Xavier Dupré. Alors, Philippe Hugon, vous avez entendu l'analyse de M. Dupré. Vous, de votre côté, comment interprétez-vous cette décision et cette démarche européenne contre l'Iran?
Oui, tout d'abord, bonjour à tous et bonjour à Xavier Dupré. Donc, je crois qu'il y a deux points importants dans ces sanctions. D'une part, il faut savoir que les sanctions, ça ne fonctionne pas. Vous avez toujours les moyens de contourner ces sanctions. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que ces sanctions amènent une radicalisation de ces pays qui sont mis sous sanctions. Donc c'est une politique qui est totalement stérile, inefficace et qui ne sert à rien. Moi, je suis vraiment stupéfait de voir des pays comme les États-Unis, la France, l'Angleterre et bien d'autres qui se disent des démocraties avancées prendre encore de telles sanctions. Il est vrai que tous les pays européens aujourd'hui ont des gouvernements qui sont d'une grande incompétence en politique internationale. Et moi, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à mettre des gens qui sont aussi minables à mener une politique aussi nulle sur un plan international qu'on puisse le faire en France, en Angleterre, en Allemagne et dans bien d'autres pays. Et en ce qui concerne toujours ces mêmes sanctions, je pense qu'il faudrait faire un petit peu d'histoire et revenir dans les années 60, quand en Polynésie française, c'est-à-dire en plein océan Pacifique, la France a mis au point l'arme atomique, et tout le monde condamnait plus ou moins la France pour les essais nucléaires, pour... Est-ce qu'on en a tenu compte en tant que gouvernement français? Pas du tout. Est-ce que la France a été mise sous sanction? Pas du tout. On a bien laissé couler le navire et personne n'a réagi à travers le monde. Alors là, je trouve que les sanctions qui sont prises contre l'Iran sont totalement injustifiées. Il est normal que l'Iran, qui est une grande nation, puisse avoir une politique de défense nationale qui soit performante. Et je trouve même indécent d'avoir un tel discours aujourd'hui de la part des Occidentaux, parce que vraiment, ces sanctions ne serviront à rien du tout, si ce n'est qu'à radicaliser un pays qui n'en a pas besoin. Au contraire, je pense qu'il faudrait que les chefs d'État européens se rendent en Iran, négocient avec l'Iran et reprennent les dialogues. Et ce n'est pas avec une politique de sanctions que l'on fera avancer des choses. Ceci ne sert à rien et montre la grande légèreté avec laquelle l'Europe, l'Union européenne, les États-Unis traitent un dossier aussi lourd et aussi important que celui-là. Je pense qu'on est vraiment totalement à côté du sujet. Et une fois de plus, d'ailleurs, puisque ça ne date pas d'aujourd'hui que des pays en Europe prennent des positions totalement injustifiées. Et moi, je pense qu'il n'y a qu'en reprenant des discussions diplomatiques au plus haut niveau, et je pense qu'il serait bien de la part de certains pays en Europe que les dirigeants, que des ministres, que des chefs d'État se rendent en Iran pour voir la situation sur place et trouver des solutions qu'aujourd'hui on a totalement mis de côté.
Merci Philippe Hugon pour vos explications. Restez en ligne, Monsieur Dupré. Dans les prétextes des sanctions et de cette décision prise par les pays européens figure la violation du PGAC. L'Iran a maintes fois en fait insisté sur le fait qu'elle respectait toutes les règles dans le cadre et dans ses engagements du PGAC. Comment interprétez-vous ces prétextes en fait, que ce soit l'accord nucléaire et l'enrichissement nucléaire par l'Iran, que ce soit par exemple les manifestations, les émeutes en Iran et les ingérences des pays occidentaux et en fait tous ces prétextes que les pays européens cherchent en fait, on pourrait dire cherchent la petite bête pour embêter l'Iran.
Alors, je vous disais tout à l'heure que... allô ?
Oui, je vous entends, on vous entend, monsieur.
J'ai une coupure, excusez-moi. En fait, nous nous situons, je vous disais tout à l'heure, dans une ligne de surcompliance, de suralignement par rapport aux desiderata et aux orientations de la diplomatie américaine. Ça, c'est très net. Et donc, si vous voulez, dans ces conditions... Bien, on a tendance, concernant l'Iran, à s'inscrire en Europe dans la lignée de ce que les États-Unis projettent comme stratégie pour la République islamique d'Iran. Or, il est très clair qu'on est passé en 2018, que ce soit d'ailleurs sous Trump ou Biden, on est passé depuis 2018 d'une ligne de reconnaissance de la souveraineté iranienne et de négociation à une entreprise qui vise à un changement de régime à Téhéran. Et donc là, pour le moment, évidemment que la question des droits de l'homme, d'éventuels de manifestations, de troubles intérieurs, tout cela va évidemment être monté en épingle pour dénoncer et s'opposer et justifier une politique de sanctions. En vérité, cette politique de sanctions, les Européens, en 2018, ben, ils se regardaient les uns les autres en disant « c'est tout de même pas possible, on n'est quand même pas d'accord », et puis ils se sont réalignés. Et je me rappelle qu'à l'époque, il était très clair, et ça avait été très vite couplé par l'administration américaine, Donald Trump parlait bel et bien de revoir à la hausse la contribution des pays européens au financement de leur défense par l'OTAN. Et évidemment, personne n'était à serait nécessité des arbitrages financiers qui auraient éventuellement mis à mal la protection sociale, les protections de l'emploi, des politiques du troisième âge, des politiques sociales de manière globale. Et donc personne ne voulait en Europe affronter une vague de grogne et de mécontentement social. Et donc dans ces conditions, nous nous sommes progressivement alignés. C'est un élément d'explication, mais en tout état de cause, vraiment, les États-Unis nous ont fait sentir que depuis, pour l'administration Trump, que nous étions culturellement dépendant pour les questions militaires du parapluie américain. Donc dans ces conditions aujourd'hui, tous les prétextes que vous nommez sont des prétextes, mais sont en même temps des objectifs de la politique extérieure des États-Unis. Nous sommes bien passés d'une volonté de discuter d'égal à égal, en tout cas une volonté de discuter avec l'Iran et une volonté de déstabiliser un pays et un régime. Et dans ces conditions, bien oui, quelque part, les Européens ne vont pas spontanément renacler et s'opposer à la ligne générale des États-Unis dans le domaine, dans la matière. Et je crois même que de plus en plus, spécialement depuis qu'il y a ce conflit en Ukraine, nous allons être alignés sur Washington qui dénonce aujourd'hui l'Iran comme une puissance révisionniste. Et donc, n'envisage sûrement plus de discuter à moyen terme et on va au contraire chercher à déstabiliser et à reprendre la main en Iran. Nous sommes en 2018, nous avons complètement changé d'époque et les tensions structurelles qui existent aujourd'hui et qui vont longtemps exister entre Pékin et Washington excluent un retour à la normale, si je puis dire, à l'esprit de 2015, à l'esprit du PGAC. Ça, c'est exclu dans la chaîne des États-Unis. Et je crains que tant que la guerre en Ukraine, tant qu'il n'y aura pas de sortie via une négociation équilibrée en Ukraine, les Européens ne vont, tant que le conflit est là en Ukraine, les Européens vont s'aligner très très fidèlement sur la ligne des États-Unis, quand bien même ils sacrifieraient une partie de leurs intérêts économiques, bien compris l'exploitation du gaz iranien constituerait une manne pour les pays européens. Je veux dire, aujourd'hui en Allemagne, vu le prix du gaz, il y a pour la première fois, vous n'avez jamais vu ça, on n'avait jamais vu un niveau d'activité industrielle aussi faible. Nous sommes un continent aujourd'hui en Europe occidentale qui sacrifie ses intérêts de long terme parce que quelque part nous sommes là, il y a une contradiction entre nos intérêts bien compris, nos intérêts économiques, structurels en tant que société bien compris et une dimension superstructurelle d'alliance historique avec les États-Unis. Donc ces prétextes, quelque part, ce sont des prétextes, mais ce sont aussi des raisons. Ce sont les raisons de notre alignement sur Washington. Et aujourd'hui, cet alignement est présenté et est clairement identifié au sein des élites européennes comme une condition de survie qu'il ne faut pas discuter.
Merci infiniment, Philippe Hugon. Vous avez entendu l'analyse de Xavier Dupré et concernant en fait ces prétextes des pays européens pour renforcer leur pression contre l'Iran. Et c'est quoi votre analyse et votre point de vue, Monsieur Hugon?
Oui, alors moi j'ai une position qui est tout à fait similaire à celle de Xavier Dupré. Ça c'est clair que vous savez, quand on veut trouver des raisons pour condamner un pays, on trouve toujours de multiples raisons. Moi je trouve qu'aujourd'hui, s'aligner sur les États-Unis, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne solution. Toutes les fois que l'Europe ça a voulu choisir cette option, eh bien on a eu quand même de grandes déconvenues politiques. Donc je ne pense pas qu'à terme, je pense qu'il faut que l'Union européenne ait une propre politique internationale, une politique diplomatique qui permet par le dialogue de trouver des solutions avec les intervenants dans tous ces dossiers. Le fait de mettre sous sanction, de condamner, de s'aligner. Alors bien sûr, on a des intérêts économiques, on a des intérêts militaires, on a des intérêts financiers à s'aligner avec les Américains. Maintenant, à terme, est-ce que c'est une bonne solution? Sincèrement, je ne le crois pas. Je pense qu'il faut que l'Union européenne développe sa propre ligne de défense. Et ne pas s'aligner sur les États-Unis. Vous savez, les États-Unis, quand on parle de la plus grande démocratie du monde, ça me fait rigoler. Hein. Vous avez des millions de gens aux États-Unis qui crèvent de faim dans les rues. Je ne pense pas que ce soit le bon système à suivre. Donc il faut relativiser un petit peu tout ça et surtout éviter d'avoir une politique de suivisme comme on peut le faire dans certains dossiers. Parce que là, je pense qu'on ira à notre perte. Je pense que seul le dialogue et la diplomatie peut résoudre un certain nombre de problèmes. Et ce n'est pas cette politique de suivi qui permettra de faire avancer les choses.
Exactement. Et Monsieur Dupré, comme vous l'avez expliqué, cet alignement des pays européens, dans la ligne des politiques américaines. Est-ce qu'on pourrait vraiment être optimiste quant à une indépendance de prise de décision, de démarche européenne, sans qu'il y ait en fait l'ombre des États-Unis au-dessus des pays européens et de ses dirigeants?
C'est une excellente question. Alors, je vais éviter de me positionner dans le souhait. On va d'abord essayer de proposer une analyse un petit peu lucide de ce qui se passe.
Oui.
Je crois qu'il faut être très clair. Pour l'instant, les élites européennes
sont acquises quelque part au consensus de Washington et à l'orientation néolibérale des politiques économiques. Il ne faut jamais oublier que derrière les élites politiques, il y a aussi des élites économiques. Et que l'application de politiques néolibérales a considérablement accru à la fois leur fortune, mais aussi leur pouvoir social. Donc dans ces conditions, je ne vois pas les élites en place aujourd'hui en Europe remettre en cause notre alignement sur les États-Unis. En revanche, si dans la population s'établit une équation entre l'alignement avec les États-Unis et d'autre part, toutes les conséquences économiques néfastes liées au conflit en Ukraine, si cette équation s'établit dans la population et se convertit en majorité alternative à cet ordre néolibéral européen, l'euro-libéralisme, dirions-nous, alors à ce moment-là, si ça se produit dans un pays qui pèse en Europe, donc vous devez déjà exclure le Royaume-Uni qui fait partie de l'Union européenne, ce serait ou l'Allemagne ou la France, peut-être l'Italie, mais là c'est déjà beaucoup plus secondaire, et ce n'est même pas le cas en plus, puisque Mme Meloni est atlantiste. Là, éventuellement, quelque chose pourrait se produire. Mais pour l'heure, tant que l'extrême-centre, quelque part, règne d'une main de maître sur l'Europe, l'extrême-centre néolibéral, hein, l'extrême-centre-droit, en fait, tant que cette famille politique règne sur l'Europe avec des orientations économiques, socio-économiques qui sont les siennes et qui correspondent à des intérêts bien identifiés d'une minorité de la population, et qui suppose un alignement sur les États-Unis, le modèle néolibéral par excellence dans le monde, tant que cette hégémonie politique reste d'actualité, reste de mise et exerce ses effets, il y a peu de choses à espérer. Alors, est-ce que les populations européennes identifieront cette équation néolibéralisme alignement sur Washington avec en clé de fond les répercussions économiques extrêmement dommageables pour l'économie européenne, pour l'industrie européenne liée au conflit en Ukraine? Eh bien, c'est toute la question des scènes politiques européennes, de la conflictualité politique et de la conflictualité, largement de la conflictualité sociale en Europe au cours des 10 à 15 prochaines années.
Merci infiniment, Xavier Dupré. Monsieur Hugo, nous avons moins de 2 minutes devant nous. Le mot de la fin est à vous, Philippe Hugo.
Oui, eh bien, je dirais que je suis tout à fait de l'avis de Xavier Dupré dans sa dernière intervention. Je dirais malheureusement, tant que les choses n'évolueront pas, il n'y aura pas de solution pérenne pour permettre à normaliser ces relations diplomatiques. Moi, je voudrais malgré tout terminer sur une note d'espoir, si on peut appeler ça comme ça, mais je pense qu'il est temps que l'Union européenne prenne ses distances avec les États-Unis et entame une véritable politique de négociation avec non seulement l'Iran, mais bien d'autres pays qui sont un peu dans ce cas-là, et de façon à normaliser ces relations et qu'on puisse enfin trouver un système pérenne et qui permette non seulement à l'Europe de pouvoir développer ses relations diplomatiques, mais également avec des pays comme l'Iran, de retrouver une situation plus normale, car tout le monde va perdre dans des histoires comme celle-ci, et bien personne ne sera vraiment gagnant. Malheureusement, comme le disait Xavier Dupré, et il a malheureusement raison, si je puis dire, je ne vois pas de solution pérenne dans l'immédiat, tant que l'on aura les politiciens que l'on a et des financiers que l'on a pour faire évoluer la situation.
Je vous remercie. Alors, Xavier Dupré, économiste et analyste politique, Philippe Hugon, reporter de guerre et analyste politique, était avec nous pour cette émission et pour ce débat. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour ou bonsoir depuis la capitale iranienne, Téhéran. Nous sommes avec vous avec une nouvelle édition de l'Afrique Économie, une émission durant laquelle nous essayons de passer en revue les développements et les actualités économiques sur le continent africain, notamment durant les 7 derniers jours, que ce soit en Afrique du Nord, la Corne de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, la Centrafrique ou bien l'Afrique du Sud. Restez avec nous. La Zambie et la Chine conviennent d'utiliser leur monnaie nationale dans les échanges commerciaux. Lusaka et Pékin soulignent que l'utilisation des monnaies locales pour les règlements des échanges commerciaux et le financement des investissements bilatéraux vise notamment à réduire les coûts de change. La Zambie et la Chine sont convenus d'utiliser leur monnaie nationale pour les règlements de leurs échanges commerciaux et le financement de leurs investissements bilatéraux. Selon une déclaration commune publiée ce vendredi 15 septembre, en marge de la visite d'État du président zambien Hakainde Hichilema à Pékin. Annoncée à l'issue d'une rencontre entre le dirigeant zambien et son homologue chinois Xi Jinping, cette mesure vise notamment à réduire les coûts de change, a-t-on précisé, de même source. Lusaka et Pékin ont d'autre part annoncé le relèvement de leur relation bilatérale au niveau de partenariat stratégique global et le renforcement de leur coopération dans le domaine de l'exploration minière. M. Hichilema a entamé le 10 septembre sa première visite d'État en Chine depuis son accession au pouvoir en 2021. Il a été très critiqué localement pour ses fréquentes visites dans les pays occidentaux, au détriment des liens plus faibles avec la Chine, qui est le plus grand créancier bilatéral de Lusaka. Selon le think tank américain Entreprise Institute, la Chine a également investi plus de 11,3 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures en Zambie entre 2014 et 2023, dans le cadre de l'initiative des nouvelles routes de la soie. L'empire du milieu absorbe par ailleurs environ 20% des exportations de ce pays d'Afrique australe. La Corée du Sud annonce des financements de 6 milliards de dollars sur 2 ans pour l'Afrique. Les fonds devraient notamment servir à soutenir la réalisation de plusieurs projets dans les domaines de la transition énergétique, de l'agriculture, de l'éducation et de la formation professionnelle. La Corée du Sud s'est engagée mercredi 13 septembre à accorder des financements globaux de 6 milliards de dollars sur 2 ans à l'Afrique pour soutenir la réalisation de plusieurs projets dans les domaines de la transition énergétique, de l'agriculture, de l'éducation et de la formation professionnelle. L'annonce a été faite par le vice-ministre sud-coréen de l'économie et des finances, Chu Kyung-go, au deuxième jour de la 7e conférence sur la coopération économique Corée-Afrique, qui se tient depuis le 12 septembre dans la ville portuaire de Busan, en Corée du Sud. Cette conférence biennale, dont le thème a été cette année « Embrasser un avenir durable », transition énergétique juste et transformation agricole en Afrique, est organisée conjointement par la Banque africaine de développement, la Banque coréenne d'import-export et le ministère coréen de l'économie et des finances. Les financements devraient être accordés aux pays africains à travers plusieurs canaux, dont l'Exim Bank of Korea, le Fonds de coopération pour le développement économique et le Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique. La 7e édition de la conférence sur la coopération économique Corée-Afrique, qui s'étend sur 4 jours, a été marquée par la participation de délégations gouvernementales provenant de 38 pays africains. Cameroun signe un accord de financement avec l'AFD pour le projet ferroviaire Bellabo-Gaoundéré. Après plus de 3 années de négociations, le processus de mobilisation de fonds avec l'AFD pour la modernisation de ce tronçon clé du corridor Douala-Djamena est désormais bouclé. L'accord de financement de l'Agence française de développement pour le projet de réhabilitation du chemin de fer Bellabo-Gaoundéré a finalement été signé. Le bailleur mettra à disposition une enveloppe de 126 millions d'euros qui viendra compléter un investissement de 129 millions d'euros déjà mobilisé auprès de la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne. La voie ferrée de 339 km devrait relier ces localités du nord du Cameroun, carrefour du commerce régional, notamment pour les marchandises à destination du Tchad, en provenance du port de Douala. Cette bretelle du réseau ferroviaire exploité par Camrail, dont le terminus se trouve à Gaoundéré, offrira une meilleure alternative au transport routier, devenu une option difficile, faute d'infrastructures routières suffisantes et modernes. Après plusieurs décennies d'exploitation, ce réseau inauguré depuis 1974 est devenu inadapté aux exigences techniques actuelles du transport ferroviaire moderne. La remise à niveau des infrastructures porte entre autres sur des travaux de renouvellement de rails, traverses et ballast de la voie principale et des voies d'évitement dans les gares. Le projet, une fois à terme, renforcement de la sécurité du réseau et contribuera entre autres à désenclaver la région et réduire le temps de trajet d'autant que la vitesse moyenne des trains passera à 60 à 90 km par heure. Il facilitera de même l'acheminement des productions locales, notamment de bétail, et impulsera une autre dynamique aux échanges avec le Tchad qui fait transiter chaque année près de 350 milliards francs CFA de marchandises via ce corridor. Du mois d'août, AGL Mali a réalisé une opération logistique de grande envergure à destination de la mine de la Figue en Côte d'Ivoire. L'entreprise a en effet coordonné un convoi exceptionnel de 61 camions transportant plus d'une douzaine de machines sur une distance de plus de 7700 km. Le point de départ de cette importante expédition a été fixé à Sanakoroba, au Mali, où les équipes d'AGL Mali ont pris en charge le convoi en vue de son acheminement jusqu'à la mine de la Figue, située dans le centre nord de la Côte d'Ivoire, pour garantir la sécurité et la protection du convoi tout au long du trajet. Les équipes locales en Côte d'Ivoire ont assuré l'escorte des véhicules de la frontière jusqu'à la destination finale. L'opération, qui a demandé la disponibilité de plus d'une centaine de collaborateurs, a été réalisée en seulement 7 jours à la grande satisfaction du client. Le succès de cette expédition a été rendu possible grâce à la forte mobilisation des équipes opérationnelles et à une communication en temps réel entre tous les acteurs de la chaîne logistique, le tout dans le respect strict des normes et exigences en matière de qualité, de sûreté, de sécurité et d'environnement. Rémi Ayouki Amavi, directeur général d'AGL Mali, a exprimé son enthousiasme devant cette prouesse. Cette réalisation témoigne une fois de plus de l'expertise technique de notre entreprise qui poursuit son positionnement de partenaire logistique de référence en Afrique. AGL Mali continue de repousser les limites de la logistique en Afrique, mettant en avant son savoir-faire, son engagement envers l'excellence opérationnelle et sa capacité à répondre aux défis les plus exigeants. Grâce à des projets de cette envergure, AGL renforce son rôle majeur dans l'industrie logistique du continent en s'appuyant sur ses équipes occidentales. Pour rappel, AGL Mali fait partie intégrante de la région Afrique-Atlantique de l'entreprise qui englobe, en plus du Mali, la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal, où se trouve le siège régional de l'entreprise.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.